Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Tu vas pas me dire que tu prends cette théorie d'adolescent attardé bobo à la con ? Mais le débile qui a écrit ça confond désir et amour.
Oui, mais c'est un bon sujet de livre. On m'en a dit beaucoup de bien. Hein. C'est vraiment...
Logorée de pauvres branleurs immatures.
L'inclination amoureuse, pour éthérée que soient ses allures, prend racine uniquement dans l'instinct sexuel et n'est même qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, plus spécialisé et plus individualisé, écrit Schopenhauer. Lui qui n'aimait pas le dessin de sa bouche, pensait que l'essentiel était d'avoir dans les yeux et sur le front la marque du génie, ce par quoi il se sentait royalement dispensé d'être un saint. L'équipe des Nouveaux Chemins connaît bien la métaphysique de l'amour grâce à Lucie Tardy, Antoine Ravon, Colomba Grossi et Marianne Chassor, avec Lise Combe cette semaine à la réalisation, Clément Daté à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez à 10h51 pour ces 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, il sera aussi question tout à l'heure de chiens et d'animaux en général, puisqu'est paru un recueil de textes sur les hommes et les bêtes dans l'Antiquité. Kawe Kanem, ça s'appelle, et c'est aux belles lettres.
Rendez-vous à 10h51. Il est temps de retirer au magazine People le monopole de la vie amoureuse. Vous qui pensez que celui qui aime n'est pas sérieux, que l'amour est en tout point secondaire à la pensée, que passion signifie anecdote biographique sans rapport avec l'élaboration d'une pensée, rappelez-vous, dans le mot philosophie, il y a sagesse et amour. Amour terrestre, amour divin, amour de soi, amour des autres, amour de l'autre, ou encore dégoût de l'amour. Cette semaine, nous explorons 4 formes d'amour bien différents qui unissent un ou une philosophe à autre chose ou quelqu'un d'autre que lui. Ainsi hier, Martine Lebovici vous a conté l'incroyable passion entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Demain, Dorian Astor se fera le conteur de l'histoire entre Nietzsche et Lou-Andrea Salomé. Et jeudi enfin, Robert Chenavier éclairera pour vous l'amour que la philosophe Simone Veil voue au Christ. Mais aujourd'hui, pour ce deuxième temps, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Frédéric Schifter en duplex avec nous depuis les studios de Bayonne, à France Bleu Pays Basque. Pays Basque où il enseigne la philosophie, écrit des ouvrages de philosophie sentimentale, un dictionnaire chic de la philosophie, décrit le charme des penseurs tristes, ce sera bien utile aujourd'hui, et nous rappelle dans son dernier livre qu'on ne meurt pas de chagrin. Frédéric Schifter qui aujourd'hui vous expliquera comment Schopenhauer en est venu à préférer les chiens aux hommes. Bonjour à vous, cher Frédéric.
Bonjour Adèle.
On mange bientôt.
Tu préfères manger du poisson ou de la viande potinée ? Émile !
Du poisson.
Et qu'est-ce que tu aurais préféré si tu avais voulu de la viande ?
Je sais pas. Du veau.
Et si tu avais voulu du bœuf au lieu de veau, tu aurais choisi un beefsteak ou un rôti ?
Moi, un beefsteak.
Et si tu m'avais dit rôti, tu l'aurais aimé bien cuit ou très saignant?
Très saignant.
Eh bien, mon chéri, tu n'as pas de veine parce que justement, mon rôti de bœuf est un peu trop cuit.
Si nous plongeons notre regard dans le tumulte de la vie, nous voyons tous les êtres accaparés par les maux et les soucis de cette existence, tendant de toutes leurs forces à satisfaire des besoins sans fin et à se défendre contre des souffrances variées, sans pour autant pouvoir espérer autre chose que la conservation de cette vie individuelle tourmentée pendant un bref laps de temps. Or, au milieu de cette mêlée, nous voyons se rencontrer les regards pleins de désir de deux amoureux. Mais pourquoi est-ce à la dérobée, craintivement, furtivement ? Parce que les amoureux sont les traîtres qui cherchent en secret à perpétuer toute cette misère et toutes ces peines vouées sans eux à une fin prochaine. Ils veulent empêcher que tout cela cesse, comme leurs semblables l'ont fait avant eux.
Frédéric Schifter, qu'est-ce qui conduit Arthur Schopenhauer à la fin de sa métaphysique de l'amour, dont on vient d'entendre les dernières lignes, appeler les amoureux des traîtres ?
Que trahissent-ils ? Eh bien, ils trahissent peut-être la conscience vague qu'ils doivent avoir que... Bon, c'était des amants, ils étaient faits pour se rapprocher, ils étaient faits pour s'aimer, ils étaient faits pour se dire l'un à l'autre tellement de mots sublimes, éthérés, des belles promesses, etc. Enfin bref, tout ce que le romantisme a pu charrier comme littérature. Mais en fond, ils savent très bien qu'ils vont trahir tout ça parce que leur désir, leur prétendu bel amour ne sera qu'au service de toute autre chose, ce dont ils sont les agents, c'est-à-dire la procréation, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce, c'est-à-dire la perpétuation de la souffrance. Parce que vivre, c'est souffrir, et voilà où mène l'amour. C'est peut-être déjà en soi une souffrance, et en plus, avec l'enfantement, il reproduit cette souffrance.
Donc, appeler les amoureux des traîtres, c'est signifier que si eux-mêmes avaient conscience du caractère extrêmement douloureux de l'existence, ils ne voudraient pas la perpétuer, ils ne voudraient pas se reproduire et seraient fidèles à ce que devrait être un homme, à savoir quelqu'un qui désire rompre la souffrance, qui mettre un terme à l'existence.
Voilà, exactement, ou qui renoncerait en tout cas au désir qui mène à l'amour et à tout son folklore. N'oublions pas que Schopenhauer prône une sorte de sagesse qui est celle du détachement absolu, qu'il emprunte plus ou moins bien d'ailleurs au bouddhisme, hein, qui est l'ascèse qui mène au nirvana, etc. Donc à l'abolition ou à l'exténuation, enfin bref, à l'extinction du désir. Et donc de la souffrance. Bon, alors ça c'est la part un peu peut-être chimérique de la philosophie de Schopenhauer, mais il y a chez lui effectivement l'idée que les amoureux sont les traîtres de leur propre conception de l'amour. Ils auraient une conception très claire de l'amour. Ils verraient que celui-ci mène effectivement à la perpétuation de la souffrance.
Mais alors, comment explique-t-il dans ce cas l'origine même du désir amoureux qu'il constate ?
Alors, le désir amoureux, ça, il faut le rattacher à ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre ou la volonté. Alors, encore une fois, il faut faire peut-être une petite précision terminologique chez Schopenhauer. La volonté n'a rien à voir avec l'évolution consciente dont nous sommes capables, comme lorsque je dis, tiens, j'ai faim, je vais sortir, je vais acheter du pain, donc je veux aller acheter du pain. C'est pas ça du tout, hein, la volonté chez Schopenhauer. Schopenhauer, ce qu'il appelle la volonté, c'est cette espèce d'élan dynamique qui anime toute chose, les vivantes d'ailleurs comme les choses inertes. C'est une sorte de mouvement qui est à l'œuvre dans le monde, dans l'univers. Alors, chez les humains, le vouloir vivre, c'est bien entendu, comment dire, ce que Spinoza avait appelé avant lui, hein, le conatus, c'est-à-dire cette espèce de désir de persévérer dans l'être. Et l'une des modalités de cet élan, c'est bien sûr l'instinct sexuel. Alors l'instinct sexuel, c'est l'instinct de l'espèce. Ce n'est pas, ça s'affirme chez l'individu, mais c'est avant tout l'espèce qui parle à travers, ou qui s'exprime, ou qui s'affirme à travers cet instinct chez l'individu.
Et allez-y.
Oui, pardon. Non, et que recherche l'espèce, c'est tout simplement à se perpétuer elle-même, si vous voulez. Elle se sert de l'individu pour se vouloir elle-même. Voilà,
mais c'est ça qui semble paradoxal, c'est que du coup, c'est pour ça que je posais la question de savoir ce que les amoureux trahissent en réalité, puisque si le vouloir vivre qui est à l'origine même, au fondement même de l'existence selon Schopenhauer, de l'existence du monde dans son ensemble, pas simplement de l'homme, et bien dans ce cas, vouloir perpétuer cette espèce, c'est au contraire lui rendre service. L'amour serait au service de la perpétuation de l'espèce qui elle-même est conduite par le vouloir vivre. Tout se tient.
Oui, tout se tient, sauf que les individus, à une échelle donc qui est l'échelle de leur personne, de leur individualité, sont à la fois mus par cette volonté ou par cet instinct, par cet élan, enfin appelons ça comme on veut, mais le problème c'est que les individus ont de cette volonté, de cette puissance affirmatrice, ils en ont une représentation. Hein, n'oublions pas que Schopenhauer, c'est le philosophe du monde comme volonté et représentation. C'est-à-dire que la représentation que les hommes, ou la conscience que les hommes ont de ce vouloir vivre qui est à l'œuvre en eux, est une représentation illusoire. C'est une sorte de cristallisation sur eux-mêmes, si vous voulez, hein, au sens où l'entend des Stendhal. C'est-à-dire que il y a un instinct sexuel qui s'affirme, mais on ne veut pas le reconnaître comme tel. On y voit un élan noble fait de sentiments, de nobles passions, etc. Alors qu'en fait, oui, les individus sont au service de l'instinct sexuel et par là même du vouloir vivre, mais ils en ont une représentation complètement faussée, complètement illusoire. Ils ont l'impression d'être les sujets de ce qui leur arrive, alors qu'en fait ils ne sont que les objets les pantins de ce vouloir. Voilà pourquoi il dit que s'ils en avaient la claire conscience, c'est-à-dire que si leur représentation était en adéquation avec la réalité, alors effectivement, ils cesseraient là, tout de suite, d'être amoureux. Enfin, ils verraient bien que c'est un piège, que c'est une ruse de la nature.
C'est ça, vous avez prononcé le terme de ruse de la nature. Et précisons une chose encore avant d'entendre un autre texte de Schopenhauer où il est question de cette ruse de la nature, c'est que ce qu'on appelle métaphysique de l'amour chez Schopenhauer s'inscrit dans un système de pensée qui le dépasse largement, vous l'avez cité, le monde comme volonté, comme représentation, qui a un fondement philosophique extrêmement solide. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici dans le simple badinage d'un homme misanthrope, misogyne, ce qu'il est par ailleurs, hein, qui formulerait comme ça quelques phrases à l'encontre de l'existence et contre le désir humain parce qu'il aurait lui-même connu, enfin, été malheureux en amour. Il y a une vraie réflexion philosophique derrière ce constat, ces réflexions qu'il nomme lui-même métaphysiques sur l'amour, Frédéric Schifter.
Oui, bien sûr. Non, oui, il faut balayer les jugements hâtifs sur Schopenhauer comme triste cire, je ne sais quel névrosé, comme ça, acariâtre, atrabilaire, qu'il était certainement, si vous voulez, mais enfin, ce n'est pas ça qui a fait le fondement de sa philo.
Oui,
il n'est pas le seul, et puis même, il y a des atrabilaires qui sont de grands optimistes, hein, n'oublions pas. Alors donc, ce n'est pas ça. Non, il y a effectivement, chez Schopenhauer, il y a une intuition profonde qui est quand même très solide, comme vous l'avez rappelé, qui est l'intuition selon laquelle, oui, le monde est mu par ce qu'il appelle vraiment le vouloir. Alors, c'est mal. Alors, évidemment, ça prête à confusion. C'est vouloir vivre, c'est la volonté. Encore une fois, comment pourrait-on appeler ça? Ça serait une sorte de dynamisme universel, de dynamique universelle, de mouvement universel, aveugle, qui ne poursuit aucune finalité, rien. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'a d'autre finalité que lui-même. Donc pourquoi tout se meut, pourquoi tout bouge? Tout simplement parce que ça bouge, parce que cela se meut. Et ne cherchons pas une finalité, Il n'y en a pas, c'est absurde, d'accord ? C'est absurde, ça n'a pas de fin, c'est comme ça. Et au niveau des humains, alors, si je peux là faire une incise sur le pessimisme de Schopenhauer, au fond, qu'est-ce qu'on appelle le pessimisme de Schopenhauer ? Encore une fois, ce n'est pas du tout un trait de caractère, c'est vraiment inscrit dans son, si j'ose dire, dans son ontologie. C'est-à-dire que pour lui, dès qu'on aborde dans le monde du vouloir, il y a soit l'inorganique, donc l'inerte, les roches, les planètes, que sais-je, enfin bref, et tous les trucs gazeux, etc. Et puis, à un moment donné, on arrive vers le vivant. Et dès qu'on entre dans le règne du vivant, on entre dans le règne du sensible. Alors, il y a un règne du vivant peu sensible, les plantes, etc. Puis après, il y a un règne du vivant de plus en plus sensible, qui est le règne animal. Et je pense qu'on comprendra aussi son amitié pour les chiens à cause de ça. Et des animaux, d'ailleurs, en règle générale. Et dans le règne du vivant, il y a un être qui peut-être, chez qui la sensibilité est exquise, c'est l'humain. Et voilà pourquoi l'humain est celui qui, de tous les vivants, est celui qui souffre le plus. Parce que non seulement il éprouve la souffrance physique, mais en plus, il voit qu'il souffre. Donc c'est une souffrance presque au carré, si vous voulez. Et de là viennent d'ailleurs tout un tas de théories sur le salut, la protection, la chimère d'une vie post-mortem, etc. Enfin, tous les délires que les humains peuvent nourrir dès lors qu'ils pensent qu'ils vont échapper à la souffrance. L'homme est un animal malade, c'est un animal qui souffre de la vie, il souffre d'être vivant, plus que tout autre animal. C'est une sorte de destin qui est terrible, mais c'est en même temps, c'est ce qui peut faire aussi, d'une certaine façon, sa singularité dans le règne du vivant. Et de là viennent, c'est de cette souffrance que naissent la philosophie, les arts, en général, la poésie, les beaux-arts, etc., qui sont une tentative d'exprimer sur un autre mode que celui du simple cri, du gémissement ou du grognement, cette souffrance.
Car comme le Schopenhauer le rappelle, quand un amant soupire, c'est toute l'espèce qui gémit.
C'est un mirage voluptueux qui leurre l'homme en lui faisant croire qu'il trouvera dans les bras d'une femme dont la beauté lui agrée une jouissance plus grande que dans ceux d'une autre. Ou le convainc fermement que la possession d'un individu unique auquel il aspire exclusivement lui apportera le bonheur suprême. Il s'imagine alors qu'il consacre tous ses efforts et tous ses sacrifices à son plaisir personnel, alors que tout cela n'a lieu que pour conserver le type normal de l'espèce ou même pour amener à l'existence une individualité tout à fait déterminée qui ne peut naître que de ses parents-là. Le caractère de l'instinct, c'est-à-dire d'une activité qui semble subordonnée à l'idée d'une fin en l'absence effective de celle-ci, s'affirme ici si nettement que celui qu'entraîne cette illusion a souvent même horreur du but qui seul le mène, la procréation, et voudrait faire obstacle à sa réalisation. Cela se rencontre dans toutes les amours illégitimes. Chaque amant, après avoir enfin obtenu satisfaction, éprouvera une extraordinaire déception et s'étonnera de ne rencontrer dans la possession d'un objet si ardemment désiré rien de plus que dans n'importe quelle satisfaction sexuelle. De sorte qu'il ne se sent guère plus avancé par là. Aussi, chaque amant se trouve-t-il leurré après l'achèvement du grand œuvre, car le mirage a disparu qui faisait de l'individu la dupe de l'espèce.
Vous m'entendiez ?
Oh, impatiemment, madame, car si vous êtes étrangère à la France, vous n'êtes pas étrangère à l'idée qui m'est venue un soir de fonder cet hospice. Nous dînions l'un en face de l'autre.
Ah, c'était vous?
Oui, c'était moi.
Mais oui, je retrouve ce regard insistant.
Vous avez exaspéré, madame, excusez-moi, mais ce soir-là, s'il m'était difficile de vous regarder plus, il m'était impossible de vous regarder moins. C'était mon droit, d'ailleurs.
Oui, mais vous en abusiez.
Comme vous abusiez du droit de me séduire.
Moi, je vous séduisais?
Ah, mais oui, par exemple.
Oh, mais est-ce que c'était ma faute?
Est-ce que c'était la mienne?
Admettons que vous m'avez trouvé bien. Vous n'avez pas le droit de le crier à haute voix.
Je n'ai pas commencé, j'ai répondu.
Est-ce que je vous ai questionné?
Vous? Mais vous ne faites que ça. Oh. Vos yeux, vos mains, vos bras, vos épaules sont autant de questions posées. Et votre dos lui-même est interrogatif. Les couleurs que vous portez ne hurlent pas, mais elles parlent, elles s'inquiètent. Et vos robes s'informent. Et vos cheveux sont comme un cri. Et votre allure est éloquente. Et ce chapeau n'est qu'une question que vous vous êtes posée à vous-même au bord de l'œil. Et à laquelle je dois répondre, oui, madame, il vous va très bien. Et vous n'allez pas me dire que ça vous étonne d'être regardé alors, que vous avez toujours l'air d'être venu pour vous montrer.
Il y a regard, regard. Et je trouvais le vôtre indécent l'autre soir, monsieur.
Indécent? Si vous m'aviez regardé moins souvent, vous l'auriez oublié déjà.
C'était pour vous faire baisser les yeux.
Oh, madame, oh, on peut faire baisser les yeux de quelqu'un qui vous aime, mais pas de quelqu'un qui vous désire. D'ailleurs, écoutez, restons-en là parce que je sens que ça va recommencer.
Frédéric Schifter, si l'instinct sexuel est si trompeur chez Schopenhauer, dans la mesure où il nous fait croire que cet individu que nous avons en face de nous, en l'occurrence la femme qui est face à Sacha Guitry, qui interprète Jean Lécuyer dans son film, ils étaient 9 célibataires, qui date de 39, eh bien si cet instinct est si fort qu'il nous fait croire que l'individu va pouvoir résoudre tous nos problèmes et adoucir la douleur d'exister est faux, alors comment expliquer que Schopenhauer accorde autant d'importance à l'animal qui, lui, à la différence de l'homme, est tout entier fait d'instinct? Il devrait être encore plus dans le leurre que l'homme lui-même.
Ah ben, il n'est ni dans le leurre, ni dans la lucidité. Il est dans l'instinct, purement et simplement. Et d'une certaine façon, il est... Alors bon, sauf à faire une projection anthropomorphique, il est plus heureux. Il accomplit la mission que son espèce attend de lui. Et puis, c'en est fini. Il vit, il procrée, il meurt. Il vit, il procrée, il meurt. Voilà le mouvement, voilà la volonté, voilà le vouloir. Ce que les hommes font,
oui,
exactement,
c'est ça,
de la même
aussi.
Manière. Ils procréent aussi. Toutefois, ils en font toute une histoire, au sens à la fois narratif, au sens littéraire, au sens poétique, au sens lyrique, au sens romantique. Et alors, ils ont l'impression qu'ils se détachent justement, ou qu'ils se distinguent de leurs frères animaux par cette espèce de discours, par ces discours qu'ils plaquent sur cette petite affaire qu'on appelle l'amour. Alors évidemment, il y a aussi quelque chose qui singularise l'amour chez les humains, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est... Bon, alors, et Schopenhauer, dans son... Alors on ne sait jamais avec lui sur quel tableau il joue, s'il est cynique ou s'il est volontairement cruel comme ça, ou avec cette volonté de démystifier à tout prix, de bousiller les illusions. Mais il parle du plaisir comme du pourboire que l'espèce donne à ces malheureux protagonistes que sont les amants. Hein, bon, très bien, vous allez forniquer, vous allez tout ce que vous voulez. Allez, prenez du plaisir. Ce sera votre petit stimulus, quoi. Mmh. Voilà. Mais en attendant, sachez que le plaisir n'est pas le but. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le moyen. Le plaisir est un moyen au service d'une fin. Et la fin, c'est l'enfant. Et par conséquent, la continuation de l'espèce.
Alors, on raconte que Schopenhauer avait légué toute sa fortune à son second chien. Oui. On lit dans sa biographie ceci. « Ce qui rend si agréable la société de mon chien, c'est la transparence de son être. Mon chien est transparent comme le verre. S'il n'y avait pas de chien, je n'aimerais pas vivre. » Comment faut-il comprendre cet amour pour son chien, auquel il donnait toujours le nom d'Atma? Il a eu deux chiens, Atma, c'est-à-dire l'âme du monde en sanskrit, voilà, qu'il projetait en son chien tout l'amour qu'il ne pouvait pas sans doute donner ailleurs ou qu'il ne recevait pas ailleurs. Est-ce par haine des hommes ou par vraiment amour des animaux et des chiens en particulier qu'il créait ce lien si privilégié avec Atma?
Les deux. Alors, déjà, c'est intéressant qu'il ait nommé ces deux chiens avec un même enfin, qu'ils aient nommé de la même façon, Atma. Ce qui veut dire, alors c'est intéressant parce qu'il faut le relier au système de Schopenhauer, tout est relié à son système chez lui, hein, finalement. On dirait qu'il est emprisonné dans sa propre pensée, mais en même temps, c'est une pensée cohérente. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce soit le caniche numéro 1, parce que c'était des caniches, hein, ou que ce soit le caniche numéro 2, ce ne sont jamais que des caniches appartenant à la même espèce. Donc finalement, il y a, sous l'aspect de l'altérité, il y a du même, il y a de l'identité. L'espèce reproduit du même. Et les individus nous donnent une fausse impression d'altérité. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ces deux chiens, qui étaient deux chiens tout à fait distincts, sur le plan de l'individualité. En fait, ils sont de la même essence, si vous voulez. Ils sont de la même espèce. Voilà. Bon, alors ensuite, l'amitié pour Schopenhauer envers les chiens. Bah, c'est-à-dire que le chien, effectivement, n'est pas dans l'ordre de la... Enfin, est exclu de l'ordre de la représentation. Autrement dit, les chiens ne pensent pas, pour dire les choses... Alors, je sais bien, ça va faire peut-être bondir les amis des animaux en disant, mais oui, ils ont une pensée, etc. Enfin, bon, bref, en tout cas, s'ils ont une pensée, elle est quand même, disons, plus embryonnaire que celle des humains. Et du fait qu'ils n'appartiennent pas au monde de la représentation, qu'ils sont dans l'immédiateté du vouloir, leurs affects, parce que là, les affects, il faut bien distinguer de l'intellect, leurs affects sont plus authentiques, ils sont plus spontanés. Et un chien, naturellement, de par la loi du vouloir, sera plus affectueux, hein, au sens d'affect, il sera beaucoup plus affectueux, c'est-à-dire reconnaissant à l'égard de celui qui le nourrit, qui le protège, etc. Et il lui donnera une reconnaissance qui ne peut pas exister chez les humains, parce que les humains, eux, dans la mesure où ils sont dans la représentation, ont une telle idée de leur propre individualité qu'ils sont, eux, qu'ils oublient qu'ils appartiennent à une même espèce, qu'ils appartiennent à qu'ils sont solidaires du point de vue ontologique. Et donc, ils s'imaginent que leur individualité peut les extraire de cette espèce, et donc ils sont terriblement égoïstes. Ils sont le vouloir vivre, chez eux, s'affirme sous la forme d'un vouloir individuel, et qui est un vouloir illusoire, hein, bien entendu. Donc, ils manquent d'empathie, et forcément à l'égard de leurs semblables, alors que le chien, lui, en s'approchant de celui qui le nourrit, qui le cajole, qui lui donne un abri, etc., lui, il ira spontanément vers son maître, et il lui donnera des signes qui peuvent paraître des signes d'amitié.
De fidélité, en tout cas.
Ou de fidélité, bien sûr, de fidélité. Mais bon, Schopenhauer n'est pas non plus il ne bêtifie pas, si j'ose dire, avec les bêtes. Il sait bien que la reconnaissance du chien ou l'amitié du chien, ce n'est jamais qu'une reconnaissance du ventre. Mais enfin, au moins celle-là ne trahit pas, si vous voulez. Alors que chez les humains, même il y a souvent pas de reconnaissance, même pas celle du, si j'ose dire, pardonnez-moi la familiarité, la chose, mais même pas la reconnaissance du bas-ventre, puisqu'il y a même, il y a même infidélité sexuelle.
Je dois l'avouer sincèrement, la vue de tout animal me réjouit immédiatement et m'épanouit le cœur. Avant tout la vue des chiens, et puis celle de tous les animaux, en liberté, des oiseaux, des insectes, etc. Au contraire, la vue des hommes provoque presque toujours en moi une aversion prononcée, car ils m'offrent, à peu d'exceptions près, le spectacle des difformités les plus repoussantes et de toute nature. Laideur physique, expression morale de passion basse et d'ambition méprisable, symptômes de folie et de perversité et sottises intellectuelles de toutes sortes et de toute grandeur, enfin l'ignominie par suite d'habitudes répugnantes, Et aussi, je me détourne d'eux et je m'enfuis vers la nature végétale, heureux d'y rencontrer les animaux. Dites ce que vous voulez, la volonté, au plus haut degré de son objectivation, loin d'offrir un bel aspect, en offre un repoussant. La couleur blanche du visage n'est-elle pas déjà antinaturelle? Et les vêtements qui recouvrent le corps, cette triste nécessité du Nord, ne sont-ils pas une déformation?
Les filles, c'est beau comme un jeu, c'est beau comme un feu, c'est beaucoup trop peu. Les filles, c'est beau comme un fruit, c'est beau comme la nuit, c'est beaucoup d'ennui. Les filles, c'est beau comme un renard, c'est beau comme un retard, c'est beaucoup trop tard. Les filles, c'est beau tant que ça peut, c'est beau comme l'adieu, et c'est beaucoup mieux. Mais les chiens, c'est beau comme des chiens, et ça reste là, à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça vous pend au nez, ça vous prend au thé, ça vous prend les dés. Les filles, ça vous pend au cou, ça vous pend au clou, ça dépend de vous. Les filles, ça vous pend au cœur, ça se pend aux fleurs, ça dépend des heures. Les filles, ça dépend de tout, ça dépend surtout, ça dépend des sous. Mais les chiens, ça ne dépend de rien, et ça reste là à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h32, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à la vie amoureuse des philosophes. Et après Hannah Arendt et Martin Heidegger hier, avant Nietzsche et Lou-Andréa Salomé demain, c'est de Schopenhauer et son chien que nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Frédéric Schifter qui est avec nous en duplex depuis France Bleu, Pays Basque. Frédéric Schifter qui vient de faire paraître chez Flammarion On ne meurt pas de chagrin.
Chiens, ça ne joue à rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça donne à rêver, ça donne à penser, ça vous donne congé. Les filles, ça se donne pourtant, ça se donne un temps, ça donne en donnant. Les filles, ça donne de l'amour, à chacun son tour, ça donne sur la cour. Les filles, ça vous donne son corps, ça se donne si fort, que ça donne des remords. Mais les chiens, ça ne vous donne rien, parce que ça ne sait pas faire semblant de donner. Les chiens, ça ne vous donne rien, c'est peut-être pour ça qu'on doit les aimer. Et c'est pourtant pour les filles qu'au moindre matin, qu'au moindre chagrin, on renie ses chiens.
Leur destinée, beauté passagère, précocité, limite de leur intelligence. Elles vivent plus que l'homme dans le présent. Elles sont plus portées vers la pitié que vers la justice. Le mensonge est la défense naturelle de leur faiblesse. Les passions des femmes servent les intérêts de l'espèce. Leur rivalité vient de leur vocation unique. Au fond, ce sexe laid n'a pas le sentiment du beau. Si elles affectent d'aimer les arts, c'est uniquement par désir de plaire. La dame en Occident, le mariage, un piège et une servitude, l'honneur des femmes. Le seul aspect de la femme révèle qu'elle n'est destinée ni aux grands travaux de l'intelligence, ni aux grands travaux matériels. Elle paie sa dette à la vie non par l'action, mais par la souffrance, les douleurs de l'enfantement, les soins inquiets de l'enfance. Elle doit obéir à l'homme, être une compagne patiente qui le rassérène. Elle n'est faite ni pour les grands efforts, ni pour les peines et les plaisirs excessifs. Sa vie peut s'écouler plus silencieuse, plus insignifiante et plus douce que celle de l'homme, sans qu'elle soit par nature ni meilleure ni pire.
Frédéric Schifter, passe encore le cynisme de Schopenhauer qui fait de l'amour une ruse de la nature, passe encore sa provocation qui consiste à accorder aux chiens davantage d'importance qu'aux hommes. Comment explique-t-on sa misogynie? Pourquoi l'homme était... L'homme? La femme, pardon. Pourquoi la femme est-elle si différente de l'homme?
Mais alors, je pense qu'il lui fait un procès qu'il faut encore, dont il faut chercher les raisons dans son système. Les femmes sont, pour l'espèce, celles qui portent les enfants et qui en accouchent. Très bien. Par conséquent, elles ont une mission, alors vous allez me dire, une mission après tout qui est égale ou complémentaire à celle des hommes qui sont les géniteurs. Mais elles sont plus que des génitrices. Ce sont elles qui vont exciter, stimuler, affoler le désir des hommes pour en faire justement les géniteurs. Enfin, les procréateurs donc les perpétuateurs de l'espèce. Alors, elles sont dans leur jeunesse, elles apparaissent au regard des hommes sous les dehors les plus séduisants, les plus affriolants, etc. Donc, ces dehors-là, on dirait qu'ils sont détachés justement de la procréation. On dirait que leur coquetterie est un art en soi. On dirait que leur souci du paraître, de l'apparaître, c'est un souci purement frivole, en tout cas désintéressé. Voilà. Elles sont jolies parce qu'elles sont jolies, elles sont belles parce qu'elles sont belles.
Qui en soi n'est pas
un
problème. Séduisantes.
C'est pas un problème. Sauf que c'est une ruse. Encore une fois, elles sont même les dupes de leur propre élan de esthétique, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que elles ne savent même pas pourquoi elles ont en elles ce penchant, cette tendance vers l'embellissement de leur personne. Elles ne savent même pas que c'est pour essayer d'attraper dans leur filet. Voilà un homme qui passera par là et qui sera le géniteur de leurs enfants. Et donc, ce sont les femmes qui, peut-être plus que les hommes, contribuent à la continuation, enfin, à la perpétuation de la souffrance, finalement. Elles sont leur matrice, c'est celle de la souffrance. Qui tôt ou tard. Alors c'est pour ça que Schopenhauer ne les aime pas. Pour lui, ce sont des êtres qui, on devrait interdire aux femmes de procréer, si vous voulez, si on voulait pousser au maximum. Alors évidemment, il penserait que c'est impossible parce que il y a là l'impératif, l'impératif phylogénique de l'espèce, hein, forcément. Mais c'est presque un crime, n'est-ce pas, que de procréer pour lui. C'est parce que c'est condamné à faire vivre un enfant, c'est le condamner à l'exposer à tous les affres de l'existence. Et les femmes ne se rendent même pas compte que leur beauté ne sert qu'à ça.
Et il va même plus loin, hein, parce que dans son essai sur les femmes, il fait un éloge de la polygamie. En montrant que chez les peuples polygames, écrit-il, chaque femme trouve quelqu'un qui se charge d'elle, alors que chez nous, au contraire, le nombre des femmes mariées est bien restreint. Il y a un nombre infini de femmes qui restent sans protection, vieilles filles végétant tristement dans les classes élevées de la société, pauvres créatures soumises à de rudes et pénibles travaux dans les rangs inférieurs, ou bien encore, dit-il, deviennent de misérables prostituées traînant une vie honteuse et amenées par la force des choses à former une sorte de classe publique et reconnue dont le but spécial est de préserver des dangers de la séduction les heureuses femmes qui ont trouvé des maris ou qui en peuvent espérer. Ainsi, la polygamie est-elle un véritable bienfait pour les femmes considérées dans leur ensemble ? Alors là, on peut pas ne pas lui objecter sa propre vie sentimentale à lui. Lui, non seulement n'est pas polygame, il n'est même pas marié. Donc là, pour le coup, est-ce que dans ses écrits sur les femmes, est-ce que là, on n'est pas vraiment dans la pure provocation ? Parce que c'est difficile de trouver un fondement philosophique à ça.
Moi, je crois qu'on est dans la provocation, même s'il y a un fond de sincérité. Et je pense que si l'on fouille un peu le soubassement biographique de cette affaire, de cette misogynie, on trouvera, non loin de là, la mère même de Schopenhauer, Johanna, qui est devenu très vite après la mort de son époux, c'est-à-dire le père de Schopenhauer, est devenue très vite une veuve joyeuse, tenant salon chez elle, accueillant quantité de types plus ou moins intéressants sur le plan intellectuel. En tout cas, Schopenhauer les détestait. Il n'y en avait qu'un qui trouvait grâce à ses yeux, et pour cause, c'était Goethe. Mais, bref, sa mère a tôt fait de multiplier ses amants, sitôt que son propre époux fut mort. Et donc sa mère n'était pas sa mère était polyandre, si vous voulez. C'est cette vision de sa mère s'offrant comme ça au premier godelureau venu, je pense que ça l'a complètement vacciné contre la prétendue vertu des femmes. Et quand vous citiez au départ cette citation là, il parle des dames, n'est-ce pas? Il pensait à sa mère, qu'on devait appeler ainsi, hein, Madame Schopenhauer, etc. Il en avait une sainte horreur de sa mère. Et il voyait en elle effectivement toute la perfidie. Parce que, alors, ce qui est assez étonnant dans cette métaphysique de l'amour, si je puis me permettre, c'est que, à un moment donné, alors vous parliez de la polygamie, et là aussi il revient sur, c'était dans l'essai sur les femmes, hein, que vous venez de citer, mais dans la métaphysique de l'amour, il dit cette chose absolument incroyable. Il dit, bon, les femmes sont fidèles en amour. Pourquoi? Bien, prenons les hommes. Les hommes, un homme, en une année, s'il pouvait disposer du corps de 100 femmes, il pourrait faire à chacune un enfant. Or, une femme, aurait-elle 100 hommes dans sa vie, ne pourrait, en tout et pour tout, n'avoir qu'un seul enfant. Donc, un seul géniteur suffit. Par conséquent, quand elle en a un, elle s'y accroche, elle le garde, et il sera, s'il a bien rempli sa mission, il resservira pour l'affaire, et il sera à nouveau le géniteur pour d'autres enfants à venir. Par conséquent, c'est comme ça que Schopenhauer explique la fidélité supposée des femmes, mais il rajoute aussitôt, voilà pourquoi, quand on voit une femme infidèle, on a affaire à un cas horrible de contre-nature.
Voilà. Contre-teste. Oui, dites-nous.
Ah oui, c'est terrible. Hein. Non, c'est sûr que les femmes ne sortent pas grandies aux yeux de Schopenhauer. Et bon, écoutez, voilà, je suis désolé, vous me faites dire des horreurs, mais
vous en sortez très bien. N'interrogeons pas le fond de votre pensée. Qu'on proteste ou qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli le plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été fait. Il a tout traversé de sa moquerie et tout vidé, et aujourd'hui même, ceux qui l'exècrent semblent porter, malgré eux, en leurs esprits, des parcelles de sa pensée. Vous avez donc connu particulièrement Schopenhauer ? Dis-je à l'Allemand. Il sourit tristement. Jusqu'à sa mort, monsieur. Et il me parla de lui. Il me raconta l'impression presque surnaturelle que faisait cet être étrange à tous ceux qui l'approchaient. Il me dit l'entrevue du vieux démolisseur avec un politicien français, républicain doctrinaire, qui voulut voir cet homme et le trouva dans une brasserie tumultueuse, assis au milieu de disciples, sec, ridé, riant d'un inoubliable rire, mordant et déchirant les idées et les croyances d'une seule parole, comme un chien, d'un coup de dent, déchire les tissus avec lesquels il joue. Et il me répéta le mot de ce français, s'en allant effaré, épouvanté, en s'écriant « J'ai cru passer une heure avec le diable. » Puis il ajouta, « Il avait en effet, monsieur, un effrayant sourire qui nous fit peur, même après sa mort. »
La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur. Pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, tripé, couillon toujours, ils nous valaient bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde, et singes parlants, mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère, c'est lui qui nous possède. Quand on est passage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds.
D'abord Maupassant, la nouvelle auprès d'un mort dont j'ai lu un extrait, et puis Céline, le début du voyage au bout de la nuit dans lequel on trouve cette phrase restée célèbre « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». L'influence de Schopenhauer sur l'histoire de la pensée et même de la littérature et de la philosophie française et occidentale est considérable, Frédéric Schifter, ce qui peut paraître surprenant au regard de tout ce que nous venons de dire quant aux provocations gratuites et au cynisme parfois un peu surjoué de Schopenhauer lui-même.
Vous l'avez dit, vous l'avez cité, quelqu'un disait, oui, on avait l'impression d'avoir affaire au diable lui-même.
Alors, c'est la nouvelle de Maupassant, oui.
Oui, auprès d'un mort, c'est ça. Mmh. Mais oui, ben oui, effectivement. Mais qui, sinon le diable, peut inspirer les écrivains, les artistes, etc. Ce n'est pas un ange ou je ne sais quel. Non. Et oui, parce que Schopenhauer, c'est vraiment celui qui nous. Comme aurait dit Freud, c'est celui qui a fait en sorte que le refoulé retourne dans la philosophie, mais avec fracas.
Précisons que la phrase « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches » reprend quasiment mot pour mot la formule de Schopenhauer lui-même dans « Métaphysique de l'amour », où il dit que la nostalgie de l'amour est liée à la possession d'une femme qui détermine la représentation d'une félicité infinie. C'est le décalage entre un individu fini et une attente infinie. C'est exactement ce que dit Céline.
Non, mais c'est tout à fait... Céline est un personnage Schopenhauer... Enfin, c'est un écrivain schopenhauerien, mais Proust aussi, dans un autre genre, enfin, son tout proche contemporain. Quand Proust dit que les femmes sont les objets interchangeables d'un plaisir, pour les hommes, les femmes sont les objets interchangeables d'un plaisir toujours identique, c'est très sévère, mais c'est vrai. Alors, ce plaisir toujours identique, et après, si on veut en faire un commentaire métaphysique, on y trouve effectivement à la fois un cynisme total, mais en même temps une remarque très, très, très riche sur le fait que, oui, il y a là une nostalgie. C'est-à-dire que dans le fini du plaisir, on est en quête d'une félicité infinie, si vous voulez. Voilà. Et c'est ce qui nous dupe, c'est ce dont nous sommes les dupes, et c'est ce qui, malgré tout, nous fait vivre de génération en génération. C'est ce que Schopenhauer ne cesse de rappeler, et c'est pour ça qu'il est à la fois haï, mais en même temps, comme le texte que vous avez rappelé, il est même ses détracteurs ne peuvent pas s'empêcher d'être influencés par lui. C'est quand même très fort. Il y a très peu de philosophes qui ont réussi ce tour de force, sans le vouloir, évidemment. Mais c'est un philosophe dont la pensée a fait son chemin, y compris dans les têtes de ceux qui ne l'aiment pas.
Please remember me.
En voici un autre qui était amoureux de son chien, de sa chienne, plus précisément, c'est Paul McCartney, Martha, my dear, qui donc lui consacre cette magnifique chanson. Un grand merci à vous, Frédéric Shifter.
Merci à vous.
De nous avoir parlé de Schopenhauer et de son chien, de sa vie amoureuse désastreuse aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Bayonne, grâce aux équipes de France Bleu Pays Basque, que je remercie au passage, et que vous venez de publier chez Flammarion, On ne meurt pas de chagrin.